Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver à Canal Académie, à l'Institut de France, pour un nouveau point de mire qui va nous amener à retrouver un événement national de la littérature économique, le prix Turgot du meilleur livre d'économie financière, qui se tiendra à Bercy, au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, à l'invitation du ministre Christine Lagarde, le 11 mars prochain. Et je reçois pour cet événement le président du grand jury, Michel Bon.
Bonjour.
Michel Bon, bonjour. Merci d'avoir pris sur votre temps pour venir parler de cet événement national. 23e édition, ça veut dire que le prix est maintenant totalement installé dans le paysage économique et financier national.
Cette année, nous allons le décerner à Bercy, des mains de Madame Lagarde. Donc, c'est une forme de reconnaissance, d'une certaine façon. Turgot réintègre les ministères des Finances.
C'est une très bonne chose. Très bien. Alors, 23e édition, une édition particulièrement riche, avec 5 nominations, puisque c'est comme ça qu'on dit, que 5 auteurs, dont un duo d'auteurs, qui en définitive recouvre une grande partie de l'actualité économique nationale.
Oui, alors comme il n'est pas surprenant, la sélection est totalement dominée par la crise. Mais enfin, bon, ça paraît être un peu bizarre que et nos auteurs et notre jury aillent s'intéresser à d'autres choses que ce sujet qui quand même plombe notre existence. Alors, le premier ouvrage, celui de Daniel Cohen, met les choses en perspective. Au fond, montre, on le verra peut-être plus en détail tout à l'heure, comment cette crise s'inscrit dans tout un continuum historique et économique. Le second s'intéresse au contraire au mécanisme même de la crise en dénonçant la façon dont sont conçus les modèles utilisés par les marchés qui sont l'élément déclencheur de la crise finalement et propose une explication qui est très convaincante, je dois dire.
Alors le second, c'est Christian Walter et
Michel de Pracontal, qui s'appelle « Le virus B ».
Qui est paru au Seuil.
Alors ensuite, il y a 3 ouvrages sur les conséquences de la crise. Conséquences sur les banques, un ouvrage écrit par Georges Pogel, patron du Crédit Agricole. Conséquences sur l'euro et l'avenir de l'euro, avec un livre inquiet de Christian Saint-Étienne. Et conséquences sur les acteurs, avec un livre consacré à un des nouveaux acteurs dont on parle de plus en plus, qui sont les fonds souverains, qui est un livre
qui est édité par Erol.
Et qui est un livre de Caroline Bertin de la Cour. Alors, on peut peut-être commencer par le livre de Cohen.
Oui, alors je rappelle simplement, pour que nos éditeurs aient bien en tête, donc le nom des nominés et leurs œuvres. Caroline Bertin de la Cour, les fonds souverains chez Erol. Daniel Cohen, la prospérité du vice chez Albin Michel. Georges Pogel, la banque de l'après-crise à Revue Banque Édition. Christian Saint-Étienne, la fin de l'euro à Édition Bourrin. Et Christian Walter et Michel de Pracontal, le virus B, édition Le Seuil. Alors Michel, on revient peut-être sur chacun de ces ouvrages,
oui,
un peu plus dans le détail pour dire ce que vous avez retenu jusqu'à présent de leur présentation et de la lecture de l'ouvrage.
Alors le livre de Daniel Cohen, donc « La prospérité du vice », mais qui a comme sous-titre « Une introduction inquiète à l'économie », est un livre assez inhabituel en ce sens que c'est un livre qui a déjà connu un très grand succès. Il a été publié au printemps et je crois qu'il s'en est déjà vendu à peu près 90 000 exemplaires, ce qui pour un livre d'économie est énorme. Donc beaucoup d'entre vous sans doute ont déjà soit entendu parler, soit lu ce livre. C'est un livre qui, je pense, mérite ce succès parce qu'il donne à son lecteur tout le produit d'une énorme culture, d'une énorme connaissance, qui n'est pas seulement la connaissance d'un économiste, Daniel Cohen est un professeur d'économie, mais aussi une connaissance historique très considérable. Il se réfère constamment à l'histoire, une connaissance sociologique. Il utilise tous les outils de la sociologie. On est un peu en face, j'espère que je ne vexerai personne en disant cela, d'un travail un peu à la Raymond Aron, si vous voulez, c'est-à-dire faire appel à toutes les disciplines pour essayer de comprendre le monde. De ce point de vue, c'est donc un livre, je pense, très important qui, faisant appel à tout cela, essaye de montrer comment le monde occidental a transformé le monde, comment la pensée occidentale a transformé le monde et a conduit à la situation actuelle. Alors, on y trouve à la fois beaucoup d'éléments de réflexion, ça enrichit la réflexion de chacun, je pense, ce livre, mais on y trouve de quoi être assez inquiet. Par exemple, de façon très convaincante, Daniel Cohen explique que ce mouvement d'unification des économies occidentales et du monde occidental, qui maintenant se propose en modèle au monde et est le moteur de la mondialisation, ce mouvement s'est fait au prix de soubresauts terribles. et que si le monde doit vivre les soubresauts qu'a connus le monde occidental, c'est-à-dire en gros les deux guerres mondiales et les quelques guerres qui ont précédé, ça ne va pas être gai. Mais en même temps aussi, il explique que ce qu'a trouvé l'Occident à la fin du XVIIIe siècle a été pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité le moyen de faire croître la richesse de chacun et non pas la richesse de l'ensemble. Car par le passé, c'était l'ensemble qui s'enrichissait et la traduction, c'était qu'il y avait plus de personnes pour en profiter. Et donc, au total, chacun ne s'enrichissait pas. Tandis que là, non, chacun s'est vraiment enrichi. Alors, est-ce que ça fait le bonheur de chacun? Ça, c'est une toute autre histoire. Mais enfin, du point de vue de l'économie, ça a quand même créé de la richesse. C'est un livre extrêmement intéressant.
Alors, le second livre, le virus B, c'est celui-là, je crois que vous avez pris dans l'ordre. Alors, le virus B, ce n'est pas une forme nouvelle du virus A.
Non, le mot B veut dire brownien, dans le cas particulier. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas trop familiers des mathématiques, je ne le suis guère non plus d'ailleurs, les mathématiques browniennes sont une branche des mathématiques qui essaye d'expliquer et de rationaliser l'irrationnel et l'imprévisible. Pour essayer de faire simple, avec mes mots à moi.
Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant.
Lorsqu'on se trouve face à un phénomène qui paraît aberrant, mais par exemple, la façon dont se déplacent les brindilles sur un cours d'eau, on a l'impression qu'il n'y a aucune logique dans tout cela. Il est des outils mathématiques qui parviennent à dire, eh bien, compte tenu du fait que l'observation montre qu'il y a une certaine probabilité que certaines brindilles aillent dans ce sens, aillent plus vite, aillent moins vite, etc., on peut arriver à théoriser tout cela. Et c'est en gros les mathématiques browniennes qui permettent donc d'expliquer ces mouvements qui paraissent sinon totalement désordonnés. Alors, quand on y regarde, un marché, mettons les cours de bourse par exemple, ça ressemble exactement à ça. À chaque instant, il y a une position du cours de bourse dont on ne peut pas vraiment expliquer la logique, mais dont on peut observer un très grand nombre de cas. Et à partir de là, on arrive à dire, eh bien, dans X% des cas, on fait telle chose, dans Y% on fait telle autre chose, et aidé d'autres lois mathématiques, notamment toutes les lois dites de Gauss, on arrive à bâtir des modèles qui permettent de prédire d'une certaine façon la façon dont les cours vont évoluer. Ce sont des modèles qui sont très complexes et qui sont utilisés massivement par l'économie financière. Au point même que d'ailleurs, beaucoup des choses qui se passent sur le marché n'obéissent à aucune impulsion humaine, mais simplement à l'impulsion que donnent ces modèles mathématiques. Alors, l'apport de Christian Walter, avec l'aide de quelqu'un qui est plus journaliste, donc qui l'aide à l'expliquer de façon simple, qui est Michel de Pracontal, c'est de dire, eh bien, cette mathématique brownienne se trompe, dans le cas particulier qui nous intéresse.
C'est un déficit de la connaissance, dit-il.
Voilà. Donc, il explique qu'elle repose sur un postulat, qui est que tout ceci se présente de façon continue, même si les mouvements paraissent très désordonnés, pour reprendre mes brindilles, sur la rivière coule toujours, alors que sur les marchés, il y a des vraies discontinuités. Et on l'a bien vu lors de la crise actuelle, où les marchés se sont simplement fermés. Donc ça, c'est une discontinuité majeure. Donc ce que Christian Walter explique, c'est qu'on ne peut pas bâtir des modèles construits sur l'hypothèse de continuité lorsqu'on travaille dans un monde discontinu. Et que c'est ça qui, d'une certaine façon, pardonnez-moi l'expression, nous a mis dedans. Donc c'est un livre qui est très intéressant et qui appelle à une réflexion d'ensemble sur, au fond, l'usage des outils sur les marchés.
Je salue ce grand moment de vulgarisation, car je vous avais rendu compréhensible pour nos auditeurs des choses qui sont extrêmement pointues et complexes.
Ça, c'est donc, peut-être parce que je ne les comprends pas moi-même tout à fait.
En tout cas, vulgarisation remarquable. Voilà donc pour les deux premiers ouvrages, donc Daniel Cohen et Christian Walter et Michel de Pracontal. Ensuite, c'est celui de Georges Pauget, qui était le grand patron du Crédit Agricole.
Voilà, Georges Pauget est un des hommes les plus puissants de France, hein, puisqu'il est à la fois le patron du Crédit Agricole, qui est la principale banque de dépôt en France, mais aussi le président de l'association
Fédération française des banques.
Voilà. Donc, quelqu'un qui est tout à fait au premier rang de la crise financière et bancaire, et qui nous dit dans son livre, avec beaucoup d'humilité, les subprimes, j'ai rien vu venir. Et alors, évidemment, ça l'agace, ce que je comprends, d'autant qu'il a une solide formation économique, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les banquiers. Donc, il réfléchit, comment se fait-il que moi, qui aurais dû venir, qui était placé pour voir venir les choses, je ne les ai pas vues venir. Et c'est toute cette réflexion qu'il livre, alors pas tellement pour dresser son mea culpa, mais pour essayer de comprendre comment se fait-il qu'au fond, on n'ait pas vu venir ces choses-là. Et pour essayer de voir ensuite quels impacts ça va avoir sur la banque. Et de ce point de vue, c'est un livre qui, je crois, intéressera tous ceux qui, non seulement sont banquiers, cela c'est évident, mais même sont clients d'une banque, parce que c'est vrai que les clients des banques aujourd'hui se disent peut-être, après tout, c'est moi qui vais payer tout ça, quoi, et donc se posent quelques questions. Donc il explique, je pense, assez bien comment cette crise va transformer les banques à l'avenir.
Et que le modèle de la banque universelle, à la française, est susceptible.
À la française, oui, enfin le modèle de la banque universelle n'est pas le plus efficace dans cet avenir.
Alors voilà pour le grand patron du Crédit Agricole. Il nous reste à voir maintenant l'autre grand sujet, certainement de l'année prochaine et de cette année, c'est celui des conséquences de la crise sur l'euro.
Alors, Christian Saint-Étienne, qui donc a écrit ce livre qui s'appelle « La fin de l'euro » aux éditions Bourin, est un économiste bien connu, que l'on lit souvent, qu'on entend souvent. Il profite de la crise pour nous dire « Attention, l'euro vous a très bien protégé de la crise, prenez-y garde, ça ne durera peut-être pas indéfiniment. Pourquoi ? Parce que, explique-t-il, de façon assez convaincante, je dois dire, la zone euro n'est pas optimale, comme il le dit en jargon d'économiste, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que n'a pas la zone euro alors qu'elle a une monnaie. Elle n'a pas de gouvernement économique, elle n'a pas de politique fiscale unie, des choses comme ça. Et donc, il dit, une monnaie qui n'a pas de gouvernement économique, qui n'a pas d'harmonisation fiscale, c'est quand même une bizarrerie fragile. Il explique aussi que, et ça c'est peut-être plus original comme approche, que la zone euro ne s'est pas traduite par une attitude coopérative des acteurs de la zone euro, mais bien au contraire, chacun a cherché à tirer avantage pour son pays de son appartenance à l'euro. Les Allemands en ont profité pour renforcer leur compétitivité par rapport aux autres pays, et les pays les plus faibles pour s'en servir d'une protection contre toutes sortes de difficultés, la crise, le déficit public, etc. Or, la crise a ceci de mauvais ou de salutaire, ça, il ne se prononce pas là-dessus, que cette divergence ne peut pas durer indéfiniment quand les temps deviennent très très difficiles. L'écart que creuse l'Allemagne avec les autres va devenir insupportable un jour ou l'autre, mais la crise accélère ce jour. La protection que tirent les pays les plus faibles, comme par exemple on le voit aujourd'hui avec la Grèce, va devenir également insupportable pour les autres. Et donc, il y a de très forts risques d'éclatement. Alors, le pire n'est pas sûr et il n'est pas nécessairement très pessimiste parce qu'il voit, et c'est une large partie de son livre, des solutions à cela. Bon, enfin, encore faut-il que nous ayons la volonté d'y parvenir.
En tout cas, il faudra que l'Europe renforce sa cohésion et prenne des décisions courageuses, probablement à court terme. Voilà, alors donc, dernier ouvrage, Madame Caroline Bertin de la Cour, qui est le directeur juridique du groupe Wendel dans ses activités professionnelles et qui donc a fait paraître les fonds souverains.
Alors les fonds souverains sont des acteurs nouveaux et au fond, ce qu'elle décrit, c'est que la crise favorise l'émergence ou l'arrivée de cet acteur nouveau que sont les fonds souverains. Son propos est essentiellement descriptif, c'est un ouvrage didactique qui est destiné à expliquer ce que sont les fonds souverains. Et elle montre, je crois bien, que ce sont des fonds, sous ce vocable se cachent des choses qui n'ont pratiquement rien à voir entre elles. Et donc elle dit que ça ne facilite pas finalement la compréhension du rôle de ces acteurs parce que chacun mélange un petit peu ce que sont tous ces fonds. Il faut dire que les fonds eux-mêmes ne font pas beaucoup d'efforts pour nous aider à comprendre car beaucoup d'entre eux cultivent l'opacité, quoi. Ce qui est en revanche vrai, et elle le souligne dans son ouvrage, c'est qu'il y a quand même un point commun entre tous ces fonds, c'est qu'ils sont tous, peut-être à tort, mais tous soupçonnés d'avoir des arrière-pensées qui ne soient pas seulement économiques. Et donc, il y a une espèce de peur face à l'arrivée d'un acteur qui prétend jouer avec les autres, mais avec une règle un petit peu différente, qui est le pouvoir de son pays. Et donc, sa conclusion est en somme qu'on doit apprendre à jouer avec ces acteurs-là et à essayer de bien déterminer entre eux ceux qui ont des arrière-pensées non économiques et ceux qui n'en ont pas.
Écoutez, Président, c'est une présentation extrêmement complète. Vous avez atteint un double objectif, à la fois de donner très envie à nos auditeurs de connaître à fond ces ouvrages et d'attendre impatiemment le résultat des courses, le palmarès donc, qui sera connu et proclamé par Madame le ministre Christine Lagarde le 11 mars prochain à Bercy. Pour être complet et en vous remerciant, je rappelle qu'au-delà du palmarès des nominés pour le Grand Prix, il y a deux prix spéciaux. Un prix d'œuvre collective, dans lequel est pressenti le Cercle des économistes, un ouvrage sorti de crise ou fin du monde chez Perrin, sous l'autorité de Jean-Hervé Lorenzi et de Pierre Dauques. Et puis enfin, donc, le prix FFA Turgot de la francophonie, qui a deux concurrents en lice, un collectif avec Pierre Dauques, Marc Guillaume, Francis Fukuyama et Peter Solidarjik, Jour de colère, l'esprit du capitalisme chez Descartes, et Constant Soko, les modèles de microfinance en Côte d'Ivoire, origine, organisation et impact chez l'Armatan. Voilà, Président, il me reste à vous remercier pour cette présentation, pour le fait que vous avez bien voulu prendre un peu de votre temps pour venir parler du prix Turgot. Rendez-vous donc le 11 mars pour les résultats de cette 23e édition du prix Turgot du meilleur livre d'économie financière. Merci à vous.